Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote.
France Inter.
Club. Go. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Marion Guilbeault.
Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
Et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques pour Côté Club en live. Une heure quotidienne avec le meilleur de la scène française, francophone et plus si affinité. On ne se refuse rien. Ce soir, les Astral Bakers et Eric Paradisi sont nos invités. Bonsoir à vous cinq.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Laurent.
C'était presque collégial. Astral Bakers, vous êtes quatre et c'est le premier album The Wall Story, toute l'histoire, ça sort demain. Un équilibre soft grunge, la preuve, deux titres en live dans quelques instants. Eric Paradisi, Dans la peau de Gainsbourg, c'est un roman biographique. Naissance de Lucien qui va devenir Serge, le renoncement à la peinture, les femmes, la louve, toute une vie jusqu'à l'apparition de Jane Birkin. Marion ?
C'est la deuxième partie des nouveautés nouvelles ce soir dans Côté Club avec des retrouvailles et une apparition. Trois sons à découvrir vers 22h30.
Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
Demain, ce seront les victoires de la musique sur France Inter. L'artiste la plus nommée sera Zaod Sagazan. J'y serai en direct à partir de 21h avec Aline Afanoukwe. Aspiration sur France Inter.
Quelques aspirations et la spirale commence pour de l'inspiration. Madame caresse la démence, mais jamais ne s'arrête et jamais ne s'arrêtera cette fois dans la tête qui toujours la ramènera à sa jolie cigarette, à sa jolie cigarette. À sa dernière cigarette, de celles qui font tourner la tête. Quelques aspirations et la spirale recommence pour de l'inspiration. Je deviens bête, tout devient danse, mais jamais.
Zaod Sagazan, 5 nominations aux Victoires de la Musique, ce sera demain soir. Elle sera aussi l'invitée demain matin de Totemic au micro de Rebecca Manzoni. Les Astral Bakers et Eric Paradisi sont nos invités côté club ce soir. Est-ce que vous allez suivre la cérémonie Sage? Vous connaissez bien les Victoires, vous en avez même remporté une avec votre ancien groupe Revolver. Vous serez devant le poste.
Alors, on ne l'avait pas remporté, on avait été nommé, mais on n'avait pas gagné. J'ai vu que parfois on disait qu'on avait gagné, je suis obligé malheureusement de rétablir la vérité.
Vous savez, il n'y a que la légende qui est vraie. Le reste, on s'en fout.
Non, mais c'est vrai que c'était un beau souvenir, cette victoire.
vous voyez, ça passe tout seul.
Vous l'avez rangée où? Elle est sur le piano?
Elle est à côté de celle de Clara Luciani.
Ah, bah, bien entendu. Vous serez branché sur France Inter demain ou devant la télévision. En tout cas, est-ce que vous allez suivre la cérémonie Sage?
On a un autre événement qui fait concurrence un peu à à cette soirée, c'est que c'est la sortie de notre album.
Mais je sais,
et
oui.
C'est aussi l'anniversaire de Zoé.
Exactement. C'est l'anniversaire de Zoé. C'est vrai. Demain. Vous êtes de quel signe, puisqu'on parle d'Astral Bakers?
Je suis Verseau.
Et c'est bien?
Ben moi, je suis assez satisfaite. Ne pouvant pas changer, je me suis satisfaite de mon signe. Et voilà, je vais rentrer dans...
Dans quoi?
Dans une nouvelle décennie.
50 ans?
Ouais.
Éric Paradisi, vous regarderez le Victoire? Est-ce que vous regardez ce genre de cérémonie?
Ça dépend des années, en fait. Selon ce que j'ai à faire, oui, je peux regarder ou pas.
De toute façon, vous ne serez pas à l'anniversaire de Zoé.
À moins qu'elle
m'invite. À moins d'être invité ce soir.
Je n'ai pas eu le temps, mais bien sûr...
Est-ce que vous avez des pronostics les uns les autres, des préférences même, parce que j'imagine que vous avez des copains qui sont nommés?
Moi j'ai co-composé le morceau de Clara Isé qui est nommé dans la chanson de l'année qui s'appelle Douce.
Ouais.
Et donc c'est une chanson que je trouve vraiment remarquable.
Formidable, ah bah
donc,
oui.
Voilà, on va dire que ce serait mon choix.
Vous allez voir, dans quelques années, je vous réinviterai. Vous avez eu la victoire pour cette chanson. Et vous la mettrez à côté de la victoire pour Revolver. Théodora, vous avez des préférences demain?
Serge Gainsbourg.
Ah, parfait. Allez hop. Les Astral Bakers, c'est Sage, Théodora, Nico et Zoé. Je vous présente Éric Paradisi qui signe Gainsbourg Roman. Gainsbourg, qu'est-ce que ça peut représenter pour chacun et chacune d'entre vous? Est-ce qu'il y a des périodes qui vous intéressent plus l'une que l'autre? Nico?
Oui.
Alors, une réponse brève, mais énergique.
Clairement, la période Melody Nelson a beaucoup compté dans le son pour moi, dans la culture production de disques. Je trouve que c'est un disque absolument incroyable. Les sons de guitare sont dingues, les batteries sont folles. Donc ça a beaucoup compté. Le reste aussi, mais s'il y en avait un à retenir, ce serait peut-être ce disque.
Il n'est pas du tout dans l'actualité du roman d'Éric Paradisi. Pour vous, Zoé?
Mais moi, je vais suivre Nico. C'est pas pour rien qu'on a un groupe ensemble. C'est que j'ai vraiment cette même période en tête. Les instrumentations sont dingues et voilà.
Les albums concept, l'homme à la tête de chou.
Ouais.
Les mêmes orchestrations. Pour vous, Théodora?
Alors aussi, j'ai une affection pour cette période parce que effectivement, mon jeu de basse, il ressemble un peu à Melody Nelson sous cet album. Mais en même temps, j'aime bien la période un peu plus sulfureuse aussi.
Love on the Beat, voilà. La dernière période.
J'aime bien aussi, ouais.
Et pour vous, Sage?
C'est vrai que si mes amis n'avaient pas répondu Melody Nelson, j'aurais dit Melody Nelson.
Ils l'ont fait.
Mais j'aime beaucoup les morceaux aussi des années 60.
C'est un bon camarade, hein, Éric Paradisi.
Ouais. Toutes les périodes sont intéressantes. Et celle des années 60, ce qui me plaît, c'est que je crois que le personnage est moins présent. Et donc c'est vraiment encore plus sur la musique et la beauté des arrangements, des chansons.
Les arrangements, c'était Alain Goraguer.
Alain Goraguer, oui, qui a quasiment arrangé tous les albums de Gainsbourg, en tout cas pour cette période. Et sa contribution a été extrêmement importante. Si Gainsbourg a eu ce son, c'est aussi grâce à Alain Goraguer.
Éric Paradisi, vous êtes acteur, scénariste, auteur de 6 romans. Le 7e, donc, c'est Gainsbourg Roman. Et c'est Gainsbourg juste avant sa rencontre avec Jane Birkin pour le film Slogan en 1968. Gainsbourg avant Birkin, pour quelle raison vous avez choisi cette temporalité?
Parce que c'est la période la plus méconnue. Là, justement, on disait, tout le monde connaît un peu Gainsbourg des années 70, années 80. Mais entre 1947 et 1968, on est déjà un peu plus dans le flou. Alors que c'est une période extrêmement riche pour lui, très mouvementée, aussi bien d'un point de vue professionnel que d'un point de vue privé. Il a quand même écrit, je crois, 7 albums, Gainsbourg, pendant cette période, autant de 45 tours. Et il a aimé 2 femmes, une à l'époque où il était peintre, Elisabeth, et une autre quand il était chanteur, Béatrice. Et l'histoire, finalement, n'a retenu que Bardot, et pas les 2 autres.
Qui est arrivé à la fin de cette période,
exactement.
Justement.
Ouais. Et moi, je me suis dit, mais comment il était, Serge, à 23 ans, quand il se marie avec Elisabeth?
À qui il est resté fidèle toute sa vie, puisque jusqu'au dernier moment, il était toujours en contact avec sa première femme.
Ouais, exactement. C'était vraiment un grand amour, et après une belle amitié, je pense. Et puis c'est pareil, la même chose, une bonne dizaine d'années plus tard, il se marie avec Béatrice, et il était comment à ce moment-là? Donc c'est toutes ces questions-là qui m'ont captivé.
On vérifiera ça par la suite. Tout de suite, on part en live avec les Astral Bakers. Je vous laisse regagner tous vos instruments. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une sacrée préparation. Merci à la prise de son, c'est Gilles Gaillard et Jérôme Ragano. Merci les garçons, parce que derrière nous, c'est quand même assez impressionnant. Le live, 2 titres avec les 4 membres d'Astral Bakers. Sage, guitare et chant, Théodora à la basse, Nico Lockhart à la guitare, Zoé Hochberg à la batterie. Premier titre, Shelter, c'est extrait de ce premier album, The World Story. Quelle est l'histoire de cette chanson, Sage?
Peut-être la dernière chanson qu'on ait composée sur cet album, et c'est la chanson qui a été le plus composée tous les 4 ensemble. Elle est partie d'un riff de guitare de Nico, puis on a ajouté toutes les parties en groupe. Ça s'est fait de manière super fluide, et après on l'a enregistré le jour même ou le lendemain. Et en fait, c'était un peu la quintessence de notre recherche et de notre processus. On a enregistré tous ensemble dans une seule pièce. On a gardé une prise entière du début à la fin, sans retouche, sans rajouter d'autres pistes. Donc c'est un morceau, on va dire, qui est le plus soft grunge d'entre tous.
J'adore l'expression. Tout de suite, en live pour Côté Club, Astral Bakers. Astral Bakers, ils sont quatre ce soir, au micro, à la guitare, à la basse, à la batterie. On ne pose pas la guitare, on ne range pas ses instruments. Zoé, on reste en place. J'ai l'impression d'être un prof, c'est merveilleux. Deuxième.
Retour sur les bancs de l'école.
Deuxième live, c'est parti pour Beautiful Everything. Oui, il pensait que c'était fini, que c'était la récré. Ben non, ça bosse ce soir sur France Inter. On enchaîne, ça vous va? Qui est-ce qui fait ce bruit?
Dénoncez-vous.
C'est Nico. Superbe. Les Astral Bakers dans Côté Club, prise de son ce soir, Gilles Gaillard, Jérôme Ragano, merci pour les lives. Les deux lives seront bien sûr à la réécoute sur le site de l'émission. Sage, Théodora, Nicole et Zoé, toutes et tous, vous avez chacun votre histoire, votre parcours dans la musique, avant et toujours à côté d'Astral Bakers. Nico, qui arrive, qui rejoint son micro. Vous avez d'autres groupes, vous jouez pour qui d'autre à côté?
je jouais jusqu'à très récemment avec November Ultra, avec qui on vient de terminer une tournée. Et j'ai eu la chance de la retrouver le week-end dernier pour la création de Sage sur Françoise Hardy. Voilà.
Ici, sur France Inter, dans le cadre de l'Hyper Weekend Festival.
Ouais. Donc on ne s'est pas quitté très longtemps, c'était très bien.
Zoé Hochberg, vous êtes la batteuse de Hyphen Hyphen, de Prudence, de Laura Cahen, révélation de l'année 2019 dans le magazine Batterie. Eh oui, respect. Eh ben oui.
Quelle source.
Oui, eh ben oui. C'est pas vrai?
Si, c'est vrai.
De Pomme aussi?
Oui, mais justement, ça rejoint l'histoire des victoires de la musique parce que du coup, demain, Pomme est nommée dans la catégorie meilleur concert de l'année. Donc voilà.
Donc, d'une certaine façon, vous aussi.
Oui, je suis assez contente que le show en général ait été remarqué cette année et je suis super contente pour elle.
Sage, vous êtes compositeur, arrangeur, directeur artistique, musicien, associé au succès de deux albums de Clara Luciani, de Clara Isé, on en a parlé récemment, d'Alban La Simone, bien sûr de Woodkid, mais Sage, chanteur aussi en solo. Manifestement, Nico, vous faites partie de cet enregistrement.
Alors, pas du tout.
Je vous vois faire de l'air guitare, du piano, du clavier.
De la tournée avec Théodora, de l'album.
Ah, d'accord. Un mot, donc, sur cette façon de chanter, toujours en anglais, en fait, pour vous, Sage.
C'est vrai, depuis toujours, mais... C'est ce qui me vient... mais non, un autre, mais c'est ce qui me vient le plus naturellement, j'ai l'impression. Et c'est comme presque une autre personne, en fait, quand je chante en anglais. Et du coup, je me sens plus libre, peut-être, pour écrire des choses plus personnelles, finalement.
On vous a entendu en français, mais dans le répertoire de Françoise Hardy. Théodora, il y a la basse, oui, mais aussi des albums solo. Le dernier, c'était ça, je crois. Mais vous êtes une dancing queen.
I am.
Et elle parle anglais, c'est parfait. Créer un groupe, c'est vraiment retrouver pour vous, Sage, et pour vous quatre d'ailleurs, l'esprit qui pouvait animer les duos, les groupes quand on est adolescent, quand on est au lycée. C'est ça l'idée au départ, Sage?
Ouais, au départ c'était vraiment un rêve pour nous quatre qu'on avait chacun individuellement. Et puis quand on a commencé à jouer ensemble, à composer ensemble... C'était tout de suite extrêmement simple et agréable. Et même la veille de la sortie de notre première chanson, qui s'appelle One More, qui est sortie juste avant l'été, on se disait, bon, au pire, s'il ne se passe rien, jusque-là, on sera bien marrés, on sera déjà contents.
Le groupe est né sur scène. Il est né comment, le groupe, Théodora?
Il est un peu né sur scène, parce que quand on a commencé à tourner avec Ambroise, sur sa dernière tournée, justement, on a eu pas mal de moments de grâce. Des moments de pain aussi, en ce qui me concerne. Et donc, l'idée de grâce et de pain, ça a finalement un peu donné cette idée d'Astral Bakers.
Ah, les pains pour le boulanger Astral Bakers.
Exactement. Des pains heureux, des pains magiques. Qui, en fait, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à presque improviser en groupe quand on a commencé à faire ces chansons et à faire ce disque. Et avec des débuts d'idées de chansons, mais on restait très libre, et du coup c'est vrai que c'est un peu au fil des erreurs, des approximations des uns et des autres, donc ces fameux pains, qu'on a presque construit en fait les chansons, une erreur de basse ou de guitare amenant une nouvelle partie, et tous ces pains ne sont pas bons à prendre, mais pas mal on fait évoluer les chansons.
Mais vous en faites tous ou il n'y a que Théodora?
Mais c'est non, comme dans la pâtisserie, la tarte à tatin est née d'une erreur, à vous dire, et tout le monde est très heureux de ça, voilà.
C'est vrai.
Vous avez été élue batteuse de l'année en 2019, ne me dites pas que vous faites des pains, Zoé, c'est pas possible.
Sur l'échelle de Astral Bakers, Zoé n'en fait jamais.
Ben voilà. Et demain, c'est son anniversaire. Je vous ai demandé donc ce qui pouvait aussi vous lier musicalement tous les quatre. Réponse.
Baby, take me too.
J'aime bien parce que Nico est à fond sur tous les titres.
Il a joué sur tous les titres.
Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on écoute?
Big Sif, Shark Smile.
Pour quelle raison?
Ben, en fait, en l'écoutant celui-ci en particulier, je me dis qu'il y a vraiment un peu tout ce qu'on aime. Et puis c'est composé de la même façon, il y a les mêmes instruments, il y a un peu un truc en commun et c'est cette sauce-là qu'on aime beaucoup, nous.
Qui était l'initiative de cette référence? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou c'était véritablement une référence que vous partagiez avant même de vous connaître?
On la partageait clairement tous, cette référence, et c'est vraiment un groupe qui revient souvent dans nos discussions.
Ouais, c'est un peu un idéal parce que ils ont ce même procédé d'enregistrement extrêmement brut et naturel. Et on entend vraiment le groupe jouer dans une pièce tous ensemble. Et j'ai revu une session d'enregistrement d'eux il y a pas longtemps. Ils ont même pas de casque. On dirait qu'ils sont juste en train de jouer dans une sorte de chambre. Et puis en fait, c'est le son de l'album.
Et ça, c'est un truc qui est vraiment frappant quand même dans votre disque et dans votre volonté de l'enregistrer comme ça. C'est-à-dire là, on vous a vu jouer. Il y a pas d'ordinateur. Il y a rien en boucle. C'est quand même assez hallucinant aujourd'hui. Enfin, en 2024, en général, tous les artistes qu'on voit, il y a toujours un ordinateur qui est là.
Mais nous-mêmes, on a tous eu beaucoup de projets où on était très liés aux machines et aux ordinateurs. Et en fait, je pense que c'est un peu en réaction aussi à un trop-plein de ça et une envie de retourner à quelque chose de beaucoup plus spontané, naturel. Et en fait, dans notre album, il n'y a pas de clic. Par exemple, on n'enregistrait pas sur une grille métronomique. Donc, entre deux versions de la même chanson, on pouvait pas faire de montage parce que c'était deux versions complètement différentes. Donc, fallait à chaque fois c'était comme des plans séquences, en fait. Et il fallait que ça soit bien du début à la fin.
Vous l'avez documenté? C'est-à-dire, vous avez filmé?
On l'a documenté grâce à personne, le cinquième Astral Bakers.
Il est présent, Mathieu Torres. Il est à côté de nous, oui. Qui filme aussi toutes les sessions.
Qui est là depuis le début aussi, qui est un grand ami et qui est.
Et qui fera un film sur vous, manifestement. C'est ça? C'est en train de se préparer?
C'est lui qui a vraiment fait toute l'image du groupe, donc les vidéos, toutes les vidéos circulaires avec cette caméra qui tourne au milieu de nous.
360 degrés, c'est ça?
Exactement. D'accord. Et puis les photos et même la pochette, le logo. Ouais.
Donc les typos.
Voilà. Il fait absolument tout. Ouais. Éric Paradisi, vous avez un passé de musicien dans des groupes quand vous étiez jeune?
Alors, un passé de musicien, mais très court. Hein. Quand j'avais 12, 13 ans, 14 ans, je jouais de la guitare. Guitare sèche, guitare électrique. J'essayais de composer, d'écrire des textes. Mais en fait, je tournais un peu en rond. Alors, à un moment donné, je me suis dit, bon, on va arrêter la guitare. Et
c'était quel répertoire?
Ah, je jouais du Lavillier, Rolling Stone. Musique que j'écoutais quand j'avais 16-17 ans, c'était eux principalement. Hein. Et après, un tout petit peu après, Gainsbourg avec l'album Reggae.
Vous la jouiez?
Non, je ne jouais pas l'album de Gainsbourg. Non, je me limitais au titre de Lavillier, des Stones. Voilà.
Période Reggae. Avant ce premier album, les Astral Bakers, vous aviez dégainé quelques singles depuis 2023. C'était pour prendre la température? Vous saviez qu'il y aurait un album?
On savait qu'il y aurait un album et on avait à cœur de sortir un album tout de suite et pas de commencer par un EP. Donc on se disait que c'était plus une façon de se présenter et aussi parce que quand on démarre un nouveau projet, ça prend toujours un peu de temps. Et puis on faisait un peu les vidéos au compte-gouttes. L'album était en train d'être mixé, il n'était pas vraiment fini. En même temps, on était très impatients de sortir des chansons. Donc dès qu'on en a fini une, on l'a sortie, etc. jusqu'au disque demain.
Les textes, c'est vous, Sage, quelquefois avec Théodora, à une exception près, Easy, écrite et interprétée par vous, Nico. C'est la première fois que vous donnez de la voix, Nico ?
J'ai un petit passé de chansons en français, il y a un petit moment maintenant, voilà. Mais sinon, là, comme ça...
Quel nom en français ?
Lockhart.
D'accord, ok.
Voilà, et voilà, mais autrement, comme choriste, très souvent, comme chanteur principal, beaucoup plus rarement.
Et je me souviens quand t'es arrivé avec la maquette de cette chanson, tu m'as dit bon, faites pas attention à la voix, ça sera beaucoup mieux quand ce sera toi, Ambroise, qui va chanter. Et je dis non, mais faut que tu la chantes, c'est super. Et ça a été un peu le début aussi d'une ouverture à peut-être à d'autres personnes ici présentes qui pourraient peut-être aussi chanter des chansons. Et c'est un peu l'idée qu'on a pour la suite, pour un deuxième album, ce serait que tout le monde chante en fait.
Que tout le monde soit au même niveau, qu'il n'y ait pas de hiérarchie. Zoé, vous êtes prêt à passer à la voix?
Écoutez, je suis prête.
Justement, plus que ça, deuxième album dans un an.
Elle a une chanson qu'on est en train de travailler pour, déjà pour le deuxième album.
Ouais.
D'ailleurs, vous la jouerez derrière la batterie ou vous la jouerez à la guitare?
Alors non, là je suis à la guitare et c'est Nico qui fait la batterie. Et c'est aussi ce qu'on trouve trop chouette, c'est de pouvoir un peu switcher les instruments et d'avoir un max de fun sur scène aussi.
Vous restez avec nous les Astral Bakers, on a rendez-vous avec Eric Paradisi dans quelques instants. On va tout de suite écouter Voyou et Vanessa Paradis. Voyou qui faisait partie justement de cet hommage à Françoise Hardy que vous aviez réalisé dans le cadre de l'Hyper Weekend Festival, Sage. Vous êtes déjà sur le deuxième acte qui se passe au Printemps de Bourges.
Ouais. En fait, l'avantage d'avoir ces deux parties, c'est qu'on peut balayer un répertoire plus large et inviter plus de personnes, donc c'est un peu l'idée.
Juste une dernière question, est-ce que Françoise Hardy a écouté depuis? Est-ce que vous avez des nouvelles?
Elle a écouté et il se trouve que j'ai eu un message de son attachée de presse, Françoise Deschamps, ouais, qui m'a écrit, qui m'a dit « Françoise a écouté, elle a trouvé ça plutôt bien, ce qui est remarquable.
» Je peux l'imaginer. Tout de suite, Vanessa Paradis et Voyou.
Dans une salle sans issue de secours, aux lueurs pâles de la nuit qui cède au jour, se joue le bal de la vie et de ses amours, ce qui s'efface et ce qui resteront toujours.
Un grand bal qui s'étale, ravissant, insensé, 100 000 âmes qui s'emballent devant mes yeux cloués. Certains dansent, d'autres y pensent, et puis lui qui s'avance en quelques pas de danse, c'est vrai. J'ai flanché, genoux au sol. On a dansé sous les valses folles.
Dans cette salle sans issue de secours,
brillant le bal me rappelle mes amours.
Mon premier fil se confondra d'autres contours.
Qu'un coup de cil m'a fait perdre pour toujours.
C'est sans mal, je l'avoue, que déroule sous mes doigts une première cavalière, une deuxième et puis trois.
Je m'emballe et me perds dans cette salle bondée où tourbillonne autant de beauté.
J'y perdrai la tête en vol, aéré seul sous les valses folles. J'y perdrai
mes yeux se figent sur un beau portrait qui semble lassé d'une étreinte trop serrée. D'un geste se dégage et fend dans l'assemblée, me rejoint pour une danse à ses côtés. On a dansé des années à perdre la tête. J'en garde encore quelques ampoules assez discrètes, mais souvent les valses se soufflent avant la fin. On est proche et pourtant bien assez loin.
Après Voyou et Vanessa Paradis, Marion Guilbeault entre dans la danse.
Côté club.
L'album sera prêt quand?
Faut que je prenne deux ou trois chansons.
J'ai une meilleure idée. Je vous fais une compile et je vous l'envoie au bureau.
Sur France Inter. Des nouveautés nouvelles ce soir qui s'ouvrent avec des retrouvailles, celle avec la chanteuse Loni. C'est une habituée de Côté Club, c'est Dominica qui nous avait fait découvrir son folk et sa voix ultra sensible. Loni qui avait puisé dans sa rupture amoureuse de quoi écrire des chansons intimes, féminines, féministes, des chansons de renaissance. Et autour de cette table, on connaît le pouvoir de ce genre de chansons. Pour son premier album Ex Voto, Loni s'était entourée du producteur et musicien canadien Jesse McCormack qui avait apporté du souffle à son projet, et pour les arrangements, elle avait fait
appel à Olivier Margery. Un disque de folk sophistiqué donc, elle s'est amusée là à déconstruire dans un EP autour d'ex-voto avec des inédits qui attendaient leurs heures, des lives et des versions alternatives à écouter comme une envie de perturber ses chansons. Ainsi se Aller Chagrin avec son virage psyché qui prouve qu'avec une guitare, des réverbes et une voix comme celle de Loni, on peut se consoler de tout. Chagrin revisité, c'est un des titres d'Autour d'ex-voto, le nouvel EP de Loni qui vient de sortir. Autre voix féminine dans ses nouveautés nouvelles, c'est celle de Wisteria. Tout juste 20 ans, mais déjà une maîtrise de la harpe, du violon, du piano, de la guitare, de la MAO et de son écriture qui peut prendre la forme de chansons, de poèmes et même de contes. Une écriture très inspirée par la nature, les éléments, le sentiment de solitude. À l'heure où je vous parle, Wisteria, c'est l'alias de Sion. Elle a les yeux et les cheveux aussi bleus les uns que les autres. Elle incarne une nouvelle génération, tenace, inspirée, qui passe sans complexe d'une langue et d'une couleur musicale à l'autre, à son aise dans tout le spectre de la pop et qui a mis dans la musique tous ses espoir. Wanting to be alone, but needing to be with them. Wanting to live alone, but I feel promise to yourself. Feeling your heart run away from the pieces you attached to your lungs and to your ribs, but your mind can't stop to cry. C'est signé Wisteria. C'est aussi le titre de son premier EP qui sort vendredi sur le label Ici d'ailleurs. Le label qui a accueilli Gontard, Yann Tiersen, Chapelier Fou, Mandelson et bien d'autres. Et enfin, dernière retrouvaille dans ses nouveautés nouvelles avec The Reed, Conservation Society. C'est la dernière incarnation musicale de Stéphane Ozenet et Mathieu Blanc. Deux musiciens qu'on croise depuis une vingtaine d'années dans Vérone, Facteur Chevaux, La Reine Garçon. Des projets tous singuliers qui tournent autour d'une pop érudite. The Reed, Conservation Society évoque une auberge espagnole où les voix de la scène indépendante hexagonale, comme par exemple celle de Loni, viennent passer une ou plusieurs nuits. Après trois EP, leurs nouvelles chansons sont aujourd'hui entièrement en français. Elles posent des questions sans réponse sur comment survivre dans un monde en plein chaos. Sur ce premier album intitulé « La Société de Préservation du Roseau », bah oui, ils ont juste traduit leur nom. La pop s'est faite aquatique, l'eau est partout, avec des larmes qui coulent, la pluie qui ruisselle, des roseaux qui flottent sur le lac et des chansons qui s'inscrivent sur le temps long.
Sous les pylônes électriques, une pluie fine me caresse. Seul dans mon champ magnétique, ma chevelure se redresse. C'est dans ce cadre idyllique, sous des tonnes de béton, que j'organise un pique-nique, ma pack à roues et lampion. Ma pack à roues et lampion. Dans mon abri, mon bunker, on discutera. Je t'appellerai mon petit cœur, mon champignon atomique. Et si ça ne suffisait pas, je referais juste pour toi un essai dans le Pacifique. Quel cadeau romantique. Thank you.
un des 10 titres de la Société de préservation du roseau, premier album de The Reed Conservation Society. Ça vient de paraître sur le label franco-britannique Violet Records. Des concerts, 23 février à Nantes, 5 avril à Roubaix et à Paris, ce sera le 10 avril au Petit Bain. Les sons des nouveautés nouvelles ce soir dans Côté Club, c'était ceux de Lonnie de Wisteria et de The Reed Conservation Society. Un commentaire du côté d'Astral Bakers. Théodora, je vous ai vu très attentive à la basse sur ce dernier titre.
Pas seulement la DAS, la DAS, pas seulement la basse,
on les appelle tout de suite. Si vous voulez.
Mais non, mais je suis assez sensible à cette dernière chanson.
Du côté de vous, Ambroise ?
Oui, c'est super.
C'est super. La dernière, tous ?
Oui, petite préférence, effectivement, pour le morceau du dernier groupe qui est passé.
Moi,
pour vous, Zoé ?
J'ai bien aimé Lonnie, j'adore ce qu'elle fait, et je trouve qu'elle est vraiment très très douée, et ça fait longtemps que je la croise dans plein de sphères, même de lycée, je pense, ça date. Et je l'avais vue à la Cigale, et c'était vraiment très très beau. Ses arrangements sont magnifiques en live et en album, voilà.
Pour vous, Nico ?
Ouais, je suis Team Zoé. J'étais aussi à Zoé,
d'accord.
Il y a un duo à l'intérieur de ce quatuor. Ah,
et vous, Eric Paradisi ? Ouais,
la dernière chanson.
Celle de The Reed Conservation Society, ouais, Pylône.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il n'y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste des extraits du Reader Digest.
Et dans ce bouquin, il y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps-là, je fais le zouave au fond de la cave. Paraît qu'il n'y a pas de son métier, moi je fais des trous dans les billets.
Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous.
Et la classe, c'était lui. Ouverture, poinçonneur. Est-ce que vous avez reconnu les interprètes, Eric Paradisi ?
Moi, je pense qu'il y avait Philippe Clay, peut-être.
Non,
non.
On n'a pas trouvé Philippe Clay, figurez-vous. On l'a cherché et non. Hugo Frey.
Ah, Hugo Frey, oui, qui voulait la chanter.
Qui voulait la chanter.
Oui, oui. Et puis ils lui ont dit non, elle est pour moi cette chanson. C'était un débutant, Hugo Frey, donc ils n'avaient pas envie de donner le poinçonneur à Hugo Frey. Et après, c'était les frères Jacques.
Qui ont fait un succès de la chanson, relatif,
ils avaient du succès sur scène apparemment. Après.
Pas en vente de disques.
Non, pas tellement.
Et ensuite, la révélation, donc, quand lui, véritablement, a pris la voix et le pouvoir sur cette chanson, qui était la sienne.
Oui, tout à fait, en 1958, le poinçonneur, sa première chanson emblématique. Et elle a toute une histoire, cette chanson, d'ailleurs, par rapport à Gainsbourg. Vous savez, on dit beaucoup, Gainsbourg a signé avec Philips, assez rapidement. Et la question que je me suis posée en écrivant ce livre, mais je me suis dit pourquoi il a attendu 4 mois pour enregistrer son album, ce qui à l'époque était pas du tout normal. Les types signaient et puis ils se retrouvaient tout de suite en studio, ils enregistraient. Et je me suis posé beaucoup de questions comme ça en écrivant ce livre. Et celle-là, pour moi, il y a une seule réponse, c'est que je suis intimement persuadé que Serge n'avait pas envie d'enregistrer cet album. Il cherchait toujours un interprète. Alors oui, il avait signé avec Philips, mais il n'était pas obligé d'enregistrer un album. Et il a attendu 4 mois parce que Philippe Clay voulait de l'argent pour chanter la chanson.
À l'Olympia.
À l'Olympia, exact. Et Yves Montand, il s'est planté avec Montand, ça s'est mal passé. Et du coup, il a été un peu obligé d'enregistrer cet album.
L'histoire avec Montand est plutôt remarquable. Il va lui présenter les chansons. Montand pense que c'est pas pour lui. Mmh. Et il lui dit, qu'est-ce que vous voulez ?
Je veux tout.
Il veut tout. Et il part en disant, et il aura tout par la suite. C'est ce qu'on apprend dans ce Gainsbourg roman que vous signez, Eric Paradisi. Qu'est-ce qui a bien pu vous pousser à signer un roman biographique quand il existe plein de bio sur Gainsbourg ?
Les biographies, c'est une chose, et la fiction, c'en est une autre.
Alors justement, qu'est-ce que la fiction vous permettait d'ajouter ?
À chaque chapitre, il y a de la fiction. On peut prendre plein d'exemples. Il y a une scène qui se passe dans la voiture avec Jacques Brel, quand Gainsbourg a sorti son premier album. Ils font une tournée. Pour Brel, ça se passe très très bien, mais pour Serge, ça se passe mal. On le siffle, enfin, personne l'aime. Et Brel le prend dans sa voiture. Ça, c'est une information que j'ai vue. Je me suis dit, ils se sont forcément parlé. Et ça, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. La fiction, elle arrive comme ça.
En fait, la fiction, elle arrive par tous les dialogues qui sont mis en place dans ce roman. Ouais.
Ouais, du début jusqu'à la fin, voilà, la fiction, elle existe. C'est ce qui donne chair à toute cette histoire.
Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que vous racontez sur donc, les deux femmes de sa vie à l'époque, les deux femmes qu'il va épouser. Mais moi, ce qui m'a intéressé au début, c'est juste un détail, c'est le fait que quand il est né, il n'est pas né tout seul, il est né avec une jumelle. Mmh. Et la gémellité, c'est quelque chose qu'il va retrouver par la suite. Il va devenir Gainsbourg, donc il va se dédoubler. Il y a vraiment quelque chose qui s'annonce dès la naissance. Et pour autant, sur cette jumelle, vous n'allez pas plus loin. On sait peu de choses. Hein.
Ouais, on sait peu de choses sur elle. Et du coup, je me suis dit, bon, je ne vais pas parler de ses sœurs. Il y a déjà tellement de choses à dire sur Serge, et il fallait faire, enfin, il fallait choisir. Et puis j'avais un angle assez précis. Donc c'est vrai que j'ai un peu mis ses sœurs de côté, même ses parents, j'en parle bien sûr, mais pas tant que ça en fait. Hein. C'est vraiment, je me suis focalisé sur lui, sur ses histoires d'amour et son parcours professionnel.
Et son rapport au fait qu'il était juif et que l'antisémitisme, c'est quelque chose qu'il a véritablement vécu, même sur scène en fait.
Ouais, ouais. Alors, en 1947, quand il rencontre sa première femme, c'est assez étonnant parce qu'aujourd'hui on se dit c'est pas possible. Et en fait, il l'envoyait dans les cafés en éclaireur pour voir s'il y avait pas des types comme ça qui allaient le regarder de travers, parce qu'il avait des réflexions. Il y avait un antisémitisme qui était encore assez présent. Et après, sur scène, bah effectivement, il était plutôt mal accueilli. Il avait d'abord, lui, il se trouvait extrêmement laid, ça tout le monde le sait, mais les gens le trouvaient laid. Et
il le faisait savoir.
Ouais. Il le faisait savoir.
D'autant plus que sa première femme vient d'une famille, Elisabeth Levitsky, où l'antisémitisme, on savait ce que c'était.
Oui, alors c'est assez amusant quelque part, parce qu'il rencontre cette fille, qui s'appelle Elisabeth Levitsky, tout le monde pense qu'elle est juive.
Pas du tout, elle est orthodoxe russe.
Voilà, elle est russe orthodoxe, et toute sa famille descend de l'aristocratie russe, et ils sont tous antisémites et anti-bolcheviques. Bah, du coup, ça s'est pas très bien passé avec les parents de Serge quand ils ont appris que leur future belle-fille descendait de cette lignée d'aristocrates antisémites.
La peinture, c'est la première partie de ce récit. Gainsbourg se projetait peintre et il n'était pas le seul. Sa première femme, donc Elisabeth Levitsky, l'a même présenté à un excellent galeriste à l'époque. C'était Pierre Loeb qui lui commande 40 tableaux pour une exposition. Et il ne va pas y arriver.
Non. Je crois que c'est le drame de Serge Gainsbourg. Tout le monde dit qu'il est très doué. Effectivement, il est doué, Serge. Mais il a une ambition, quand il emmenait Elisabeth au Louvre le dimanche, parce que c'était gratuit le dimanche, il disait en fait qu'il voulait révolutionner la peinture. Et je crois tout simplement que Serge, il n'avait pas le talent de son ambition, tout simplement. Il ne savait pas comment il allait faire pour révolutionner la peinture.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir un Gainsbourg, somme toute, assez conservateur et même, voire coincé, même sur un plan artistique. Vous racontez un épisode, fictif ou pas. En tout cas, il assiste à une performance d'Yves Klein, qui à l'époque se sert donc du corps des femmes, nues comme pinceaux, sur des toiles sur lesquelles il a déjà déversé de la peinture. Les gens applaudissent, le spectacle est vraiment formidable. C'est une performance qui a marqué l'histoire de la peinture, notamment moderne et contemporaine. Lui, il en est littéralement malade. Il haïssait l'art abstrait. Il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui allait le dépasser, en fait.
Ouais.
Par rapport à sa peinture.
Oui, absolument. Et c'est vraiment là, je crois, où il prend cette décision d'abandonner définitivement la peinture, même si déjà avant, il y songeait déjà, puisqu'il se disait la musique, ce serait peut-être mieux pour moi, je pourrais écrire des chansons, placer ses textes, vivre de ça, rester dans l'ombre. La peinture, je suis sûr qu'il y croyait plus, en fait, à la peinture. Même si après, quand il est devenu chanteur, il en parlait tout le temps. C'était une référence, comme si la chanson, bah, finalement, c'était un truc facile à faire, avec la peinture, c'était beaucoup plus compliqué. Mais cette fameuse scène, elle est authentique, et ça l'a complètement dégoûté. Hein, oui. Il a piqué une scène avec Elisabeth en lui disant « Mais qu'est-ce que je suis venu foutre là pour assister à ça ?» Pour lui, c'était la déchéance, en fait, de pouvoir peindre un tableau comme ça en 10 minutes. Alors que pour lui, la peinture, c'était des semaines et des mois de travail.
Oui, il avait véritablement un regard conservateur et coincé. Et il l'avait même dans ses relations, on va dire, sentimentales. Parce que Elisabeth, sa femme, était très libre sexuellement, revendiquait cette liberté. Elle avait des amants, elle en voulait, nourrie de ses lectures de Simone de Beauvoir. Et Gainsbourg, lui, avait beaucoup de mal avec cette idée, en fait.
C'est ce qui m'a fait dire, j'ai pas de preuves évidemment, mais c'est ce qui m'a fait dire que Serge, à cette époque-là, quand il rencontre Elisabeth, il a donc 19 ans, je pense qu'il a très peu d'expérience féminine en dehors des prostituées. Moi, j'ai pris ce parti-là pour écrire ça, et je pense peut-être que je me trompe, mais bon, je suis quasiment sûr de ça. Alors qu'Elisabeth, elle, c'était déjà pas une libertine, mais elle avait beaucoup d'expérience. Et Serge était très amoureux d'elle, et pour lui, il était hors de question que sa femme ait une aventure, et même lui, c'est un grand romantique à ce moment-là. Et tout doucement, parce que elle l'a trompé, et du coup, ben lui aussi, il s'est mis à la tromper, et c'est devenu une sorte de spirale, comme ça, tous les deux, ils se disputaient aussi à cause de ça. Mais au départ, oui, c'est un grand romantique. Et d'ailleurs, il va le rester jusqu'à la fin de ses jours. Gainsbourg, même à la fin, c'est un romantique. Moi, ce qui m'a plus. En fait, c'est de le faire parler de l'intérieur. Parce que la biographie, ça se limite aux événements. Avec la fiction, ben, on donne de la chair à ces événements. Et puis devenir Serge Gainsbourg, il y a pire quand même comme personnage.
L'époque Bardot, est-ce que ça vous a intéressé ?
L'époque Bardot, en fait...
C'est la fin du roman.
C'est la fin du roman. Ce qui est intéressant avec Bardot, c'est que il a muté, il a retourné sa veste en 65. Hein, donc il abandonne quand même définitivement le jazz. Il tire un trait là-dessus, il n'en fera plus du tout. Et il commence à s'intéresser à la pop, au rock. Et avec Bardot, en fait, avec Bardot, il a trouvé une interprète idéale, celle qui a remplacé France Gall, parce qu'il a eu France Gall, ça a marché un peu avec France Gall, et puis à un moment donné, les ventes ont commencé à fléchir. Et lui, il cherchait une interprète. Il avait déjà travaillé un peu pour Bardot, il avait écrit quelques chansons, et là, il se dit, Harley Davidson, il faut que je lui présente, c'est pour elle. Et donc, il l'appelle, et voilà, il lui dit, j'aimerais bien vous faire écouter une chanson, il se voit encore à ce moment-là. Hein. Et ça a été passionnant pour ça. Et puis ça a été, je trouve ça incroyable quand même que Serge Gainsbourg ait passé quelques semaines avec Brigitte Bardot. Et pour lui, quand même, petit Lucien Gainsbourg...
Qu'il était toujours dans sa tête.
Qu'il était toujours dans sa tête et que je pense qu'il a été jusqu'à sa mort. Se retrouver dans un lit avec Brigitte Bardot, ça a dû être quelque chose d'incroyable. Et évidemment, il est tombé dans le panneau. Pourtant, il savait que c'était une femme instable. Et il est tombé follement amoureux de Brigitte Bardot. Il a même failli... Je pense qu'il a failli en mourir. Il est au bord du suicide à un moment donné, Gainsbourg.
Et ça a donné la chanson Manon.
Manon. Manon. Non. Tu ne sais sûrement pas, Manon. À quel point je hais ce.
Donc il perd Bardot, il va se mettre à rêver sur Marisa Berenson, période pré-Kubrick, hein, c'est-à-dire période pré-Barry Lyndon, qui devait jouer dans Slogan. Et le dernier mot du roman, c'est Jane Birkin.
Jane Birkin.
C'est le dernier mot. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on se quitte avec une des plus belles promesses du rap français, c'est l'instant Yamé. Bah ouais.
Bah ma gueule, c'est mon nom que tu captes, toi. J'ai le miel d'une épaule, tu m'entends, tu décolles. Pour changer de vie, j'ai dû hausser le ton. Trop de flow, mon là. Bah ouais, bah ouais. Je repère plus, je connais tous les chemins.
Tous les chemins.
Toi, fais que des prennes, des sons sans lendemain. Quand je perds, ça te fait un peu de changement. Tu reconnais, mon la DPS, MY, Yamé. Débarque dans le game comme fantassin, c'est régalé.
J't'ai dit, j'ai le palais. Avant le skill, signé fallait. J'ai les pieds sur terre, la vision d'elle.
Il peut pas m'égaler. Hello.
Côté club, c'est fini pour ce soir. Merci Eric Paradisi, merci à vous.
Merci à vous.
Le roman, c'est Roman Gainsbourg, il est édité chez L'Archipel. Merci les Astralbeckers. Alors, les Astralbeckers, c'est Sage, Théodora, Nico et Zoé. Merci à vous quatre.
Merci.
L'album, c'est le premier, c'est The Wool Story. Il sortira demain et ce sera votre anniversaire, Zoé. Bon anniversaire.
Merci.
Des concerts aussi demain. Vous serez sur scène le 15 au Grand Mix à Tourcoing, le 29 au Festival Hors Piste d'Annecy, le 7 mars, la Maroquinerie de Paris, le 25 avril. Rendez-vous au Théâtre Jacques Coeur du Printemps de Bourges et bien sûr l'acte 2 de l'hommage à Françoise Hardy. Ça c'était pour aujourd'hui. Demain, pas de Côté Club mais une grande soirée Victoire de la Musique en direct sur France Inter avec Ma Pomme et Aline Afanoukoué. Je remercie toute l'équipe de Côté Club. Son réalisateur c'est Étienne Bertin. À la prise de son ce soir et à la technique Gilles Gaillard, Jérôme Ragano, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic signent la programmation et enfin aux playlists Valentine Chedebois. Côté Club, on ferme. Bonne fin de soirée. À lundi.
Côté club, star à domicile, on mélange tout.
Oui.
C'est ça la magie du show business.
Club.
Bye.